Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir, bienvenue sur le plateau de 90 minutes info sur CNews, l'actualité, nos débats avec nos invités qui sont là, bien sûr, William T, bonjour William T, Benjamin Cauchy, soyez le bienvenu, et Ludovic Taureau,
bonjour.
Et dans quelques instants avec nous, Gérard Lanvin, pour parler foot, il est au Maroc, à tout de suite, mais d'abord un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
Les salariés devront-ils payer pour leur formation professionnelle? Un amendement a été déposé par la majorité sur son projet de budget de l'État pour 2023. Il prévoit une participation financière des travailleurs désireux de faire une formation. Un décret en Conseil d'État devra en préciser les modalités. L'une des vice-présidentes du Parlement, inculpée et écrouée, la grecque Eva Kaili est soupçonnée de corruption. Avec quatre autres personnes, elle a été arrêtée à Bruxelles vendredi. Des perquisitions ont eu lieu au domicile d'un second eurodéputé. Et puis Odessa et le sud de l'Ukraine privés d'électricité, environ 1,5 million d'habitants ont été impactés dès hier soir à la suite de frappes russes. Elles auraient été menées à l'aide de drones kamikazes iraniens, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien affirme que 10 des 15 drones ont été interceptés.
Pour commencer nos débats, la Coupe du monde de football au Qatar, l'une des demi-finales opposera mercredi à 20h la France au Maroc. C'est une affiche historique. Les Bleus ont battu l'Angleterre, les Marocains ont éliminé le Portugal. Gérard Lanvin, qui vit une partie de l'année au Maroc, est avec nous. Bonjour Gérard Lanvin, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Grand amateur de football, de sport. Vous tournerez d'ailleurs bientôt dans 4-0 de Fabien Antoniente. Mais d'abord, dites-nous comment vous avez vécu les deux rencontres hier près de Marrakech, Gérard Lanvin. C'était deux matchs, deux ambiances.
Oh, magnifique, magnifique. De toute façon, c'est la même ambiance pour les deux équipes pour nous, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de fraternité avec le Maroc, en tout cas pour moi. Et puis pour la France, évidemment, nos Bleus que j'aime et que j'estime. Donc ça devient des matchs très complexes parce que là, pour une fois, le mot meilleur va exister. C'est pas les Césars là, c'est un match de football avec deux grandes équipes qui vont s'affronter demain pour la finale. Et ça va nous procurer un plaisir immense et joyeux parce que quoi qu'il arrive, si on est quelqu'un de fraternel, l'une des deux équipes, si elle gagne ou si elle perd, elle restera celle qui nous a fait vibrer à ce point-là. Pour cette Coupe du Monde qui finalement était une belle, belle Coupe du Monde.
C'est bien de le préciser, vous avez raison Gérard Lanvin, il n'y a pas eu d'incident dans cette Coupe du Monde, tout est bien organisé, il y a des beaux matchs de foot, mais pour rester sur cette amitié franco-marocaine, cette fraternité franco-marocaine que vous incarnez aujourd'hui sur notre plateau, qu'est-ce que cela représente pour vous ?
La fraternité franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « Putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous, ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire.
Ça veut dire que le peuple français, selon vous, n'est pas prêt à bout de son plaisir ou n'est pas prêt à accepter de belles victoires ou des symboles, de belles valeurs, alors qu'au Maroc, tout est beaucoup plus paisible, comme vous semblez le dire, Gérard Lanvin.
Je dis qu'au Maroc, tout est beaucoup plus fraternel dans ce genre d'émotion. C'est-à-dire que nous étions des Français au milieu des Marocains et ils nous tapaient dans le dos, quoi. Voilà, on n'était pas là pour se taper sur la gueule parce que, à la moindre occasion, j'ai l'impression que la France devient cet exemple précis. À la moindre occasion heureuse, on se tape sur la gueule. Pourquoi ? C'est ça que je voudrais savoir. Pourquoi ? Après, je ne pense pas que ce soit la majorité des gens. Je ne parle pas d'une chose qui englobe tout le monde. Je parle de tous ces connards. parce qu'il y en a beaucoup maintenant, de tous ces connards qui viennent foutre la merde dans des circonstances heureuses où des milliers de gens heureux et disposés à s'aimer et à partager sont là pour faire la fête.
Vous pensez, Gérard Lanvin, que le pays, la France, est fracturée d'une certaine manière? On écoutera Éric
Zemmour. Je pense que la France est dans une grosse difficulté. Il va falloir un taulier, là, maintenant. Il va falloir un taulier, maintenant.
Cette fracture, vous la constatez régulièrement quand notamment Éric Zemmour, et on l'écoutera tout à l'heure, décrit et dit que quand on vit en France, il faut supporter l'équipe de France et pas l'équipe du Maroc, entre parenthèses. Comment vous réagissez, Gérard Lanvin?
Quand on vit en France et qu'on aime le football, on supporte les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui seront les meilleurs. Pour une fois, on n'est pas au César. Ce mot « meilleur » ne veut rien dire par rapport au métier que je pratique moi. Moi, je fais un métier de partage et d'échange. Au football et dans n'importe quel sport, le meilleur est fondamentalement celui qui gagne. À partir de là, le mot « meilleur » existe. Moi, je suis pour le meilleur, c'est-à-dire celui qui va me donner jusqu'au bout, comme on a assisté à ces deux rencontres, et notamment hier avec l'Angleterre, des matchs de ouf, quoi. Des matchs où on vibre, où on oublie toute l'enculerie humaine qui, comme Poutine, nous la provoque dans la tête. Nos enfants, nos jeunes gens, ils n'ont plus de rêve, ils n'ont que ça à regarder, l'enculerie humaine. Mais soyons heureux ensemble, bordel, c'est la fraternité qui va tout changer.
Cette fraternité, vous la rencontrez au Maroc, vous l'avez rencontrée aussi dans votre tournée avec votre album Ici-Bas. Donc cela veut dire que le pays, ou en tout cas la société et l'être humain, est encore envisageable?
Bien sûr, c'est encore envisageable. Mais c'est vrai que quand on écrit des textes comme ce que j'ai écrit, qui sont des textes, on les a joués dans des dizaines de festivals devant des milliers de gens qui partagent ce plaisir d'écouter des mots qui rassemblent, qui fonctionnent sur la fraternité, sur l'envie d'être bien ensemble, sur l'envie d'aller fort ensemble. Eh bien, tout ce qu'on m'a précisé, c'est « Ah, vous avez cru alors, sur les présidents de la République ?» Ils n'ont même pas écouté l'album, les gens qui sont dans les médias, parce qu'ils s'en foutent. Et à partir du moment où les médias s'en foutent, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Je veux dire, pas pour moi, mais pour l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui prônent des choses un peu plus généreuses, un peu plus fraternelles, cela n'intéresse pas les gens. Alors à partir de là, évidemment, ça se complique.
Merci pour cette sincérité, Gérard Lanvin. Vous allez suivre France-Maroc, bien sûr, la demi-finale. C'est un match que vous n'allez pas manquer.
Je suis déjà devant le poste. Lionel, je suis déjà devant le poste comme un ouf. Ça va être un match de ouf, ça va être un match de folie. Pour nous, ça va être incroyable de savoir que si l'un ou l'autre perd, on s'en fout, on sera heureux pour l'un ou l'autre. Et là, l'idée du meilleur, eh bien, il faut le prouver.
Merci infiniment. Merci Gérard Lanvin en direct de Marrakech au Maroc. Merci infiniment et merci pour votre sincérité. On vous salue. Salut. Merci Gérard. À très bientôt sur l'antenne de CNews. Ça fait du bien d'entendre déjà des personnages, enfin un acteur monstrueux. C'est l'un des derniers monstres français. On est bien d'accord, William T. Gérard Lanvin. Quand il commence à parler, on l'écoute. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est frapper du coin du bon sens et de la sincérité sur la bienveillance, sur l'amour entre les peuples et puis le sport. Parce qu'un match de foot, c'est du sport avant toute chose. Oui. Ce n'est pas de la politique, William.
Oui, je suis d'accord. Mais c'est mieux si l'amour nous permet de remporter le match. C'est dans ce sens-là. C'est toujours
quand
mieux.
Quand on est français ou marocain,
voilà,
c'est ça.
Que ce soit français ou marocain. Ensuite, après, la difficulté. Moi, je trouve que son témoignage était très intéressant, qu'il y avait à peu près deux distorsions. Quand on parle de relations entre la France et le Maroc, même s'il y a eu un point de friction avec Emmanuel Macron, traditionnellement, la France et le Maroc s'entendent plutôt bien. Et la difficulté, c'est qu'il y a des gens en France qui exploitent une mauvaise relation et l'histoire des relations entre la France et le Maroc pour justifier en fait de foutre le bordel dans le pays. Mais ils utilisent un match de foot pour foutre le bordel. C'était le cas également lorsque le PSG gagnait la Ligue 1 ou gagnait des matchs de Ligue des Champions, ils venaient sur les Champs-Élysées pour piller la boutique du Paris Saint-Germain. Et c'est le cas à chaque représentation, à chaque victoire. Ils utilisent un élément sportif pour venir foutre le bordel. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas quel est le nombre. Mais là où je suis d'accord avec Gérard Lanvin, c'est que c'est vraisemblablement une minorité. Mais il est temps que les pouvoirs politiques s'occupent de cette minorité agissante qui est là pour pourrir la vie des gens.
Les incidents, on va en parler dans quelques instants. Juste quelques images de joie tout de même et quelques messages de paix dans le cadre de ce France-Maroc qui nous lie, c'est vrai, qui établit des passerelles historiques, culturelles, fraternelles, sportives également. Déjà, la joie des Marocains au Maroc ou un petit peu partout, parce qu'il n'y a pas eu que des incidents. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Il y a eu des images de joie, des gens qui étaient extrêmement contents, qui étaient fiers aussi, et qui cette double nationalité ou cette double culture, ça a été particulièrement intéressant. Joie aussi communicative avec les Français, les joueurs français, lorsqu'ils sont rentrés à leur hôtel au Qatar. On peut voir cette image également, où on voit notamment Antoine Griezmann rire, plaisanter avec les différents personnels de l'hôtel. On n'a pas cette image, on va la voir dans quelques instants. C'est vrai que cette joie, elle est importante. La voici, voilà, on voit Antoine Griezmann, en effet, qui fait la fête. Ils sont accueillis à chaque fois, les joueurs de l'équipe de France, par le personnel de l'hôtel quand ils rentrent des matchs victorieux. Ça, ça fait plaisir à voir. Et ça aussi, c'est finalement assez œcuménique, Ludovic Toro aussi. Voilà, tout le monde. Tout le monde est ensemble et communie ensemble.
Mais attendez, on n'enlèvera pas un mot à ce que dit Gérard Lemain, sauf que je préférerais que la France gagne. Ça, c'est évident. Bien que le problème, hier, je rentrais sur le périph', il y avait des drapeaux, tout ça, il n'y avait rien de méchant. Mais il y a forcément 10% qui se mettent là-bas, qui arrivent quand même avec leurs pétards et tout ça pour casser. Et quand ils disaient une chose importante, il faut qu'il y ait un taulier. Voilà. Le taulier, il prend les 10% et on les embarque. Sauf que je suis pas sûr qu'on les a embarqués, ou si on les a embarqués, ils seront libérés demain. Évidemment que c'est de la fête. Le sport, c'est ce qui nous unit. Il y a une guerre à côté de chez nous, on a du sport. Autant faire tout ensemble. Et ce qui est idiot dans tout ça, que c'est 10%, je dirais, je vais pas les insulter, mais presque, ils font le lit du Front National. Parce que c'est ça l'image qu'ils donnent. L'image de tous les Marocains, alors que tous les Marocains sont pas comme ça. Sauf que, et je dirais aux parents, là, de ces jeunes-là, vous pouvez pas leur dire aux enfants qu'ils arrêtent de déconner, sinon on fera monter le RN. Les parents, écoutez-moi, dites à vos enfants quand ils vont, qu'ils peuvent faire la fête, mais qu'ils viennent pas pour taper, pour casser. C'est votre rôle aussi. Je suis désolé.
Alors, on va reparler des incidents dans un instant, parce que je sens bien que vous avez envie d'échanger, de partager, de débattre sur ce sujet. Mais j'aimerais tout de même vous montrer encore deux messages. Le premier, c'est un tweet de Achraf Hakimi, qui est le défenseur du Paris Saint-Germain, qui est international marocain, qui a réussi d'ailleurs contre l'Espagne le tir au but vainqueur. Il s'adresse à Kylian Mbappé, avec qui il joue au PSG. See you soon, my friend. À très bientôt, mon ami. D'ailleurs, Mbappé était allé lui rendre visite quelques jours avant le match contre l'Espagne dans son hôtel et avait posté cette photo d'amitié, d'amour, de bienveillance. Ils vont quand même se rencontrer tous les deux dans le même couloir. Hein. Ils jouent du même côté. Donc, mercredi, il y aura une opposition et forcément, une forme de, pas d'agressivité, mais ils seront vraiment opposés tous les deux dans ce couloir-là. Il y aura une opposition, en effet. Et puis, et là, j'aimerais vous faire réagir, Benjamin Cauchy. Oui. Emmanuel Macron, qui se rendra au Qatar. Tweet également d'Emmanuel Macron qui félicite les Bleus. Tout le pays est derrière vous. Nous irons au bout ensemble aux Marocains. Il s'adresse aux Marocains. Nous saluons votre victoire historique. Rendez-vous en demi-finale. Déjà, votre réaction, Benjamin Cauchy, sur le message d'Emmanuel Macron qui n'oublie pas les Marocains, dont la communauté en France aussi est très importante, et qui se rendra au Qatar, qui est un pays qui n'a pas toujours été encensé par les politiques avant le début de la Coupe du Monde.
Oui, alors déjà, juste pour l'anecdote, j'aime bien ce message du joueur marocain à Kylian Mbappé. La fraternité franco-marocaine s'écrit en anglais. Bon, je ferme cette parenthèse. Bah, écoutez, je suis plutôt satisfait que le président de la République aille soutenir l'équipe de France. Je crois qu'on a suffisamment de malheurs aux portes de notre pays et même aux portes de ce studio, dans les rues, avec des gens qui dorment les temps de Quechua. Si on peut, alors peut-être superficiellement, certains diraient, quoi qu'il en soit, si on peut créer un peu d'unité nationale pendant la semaine qui vient, je vous avouerai que ça fera du bien au moral à tout le monde. Et on peut parler de la fraternité entre la France et le Maroc, mais déjà la fraternité entre Français, si elle peut passer par le prisme du football et de l'unité nationale derrière un drapeau, je crois que ça rendra fier tout le monde. Donc bah, écoutez, que le président de la République fasse son rôle. On se souvient de Jacques Chirac qui faisait semblant de nommer les joueurs de l'équipe
de France.
Ça, c'était
en finale en 98, finale de la Coupe du Monde. Voilà.
Bon, a priori,
il connaissait vaguement Zidane, mais ça s'arrêtait là, je pense.
Donc Emmanuel Macron a un peu mieux révisé ses Bristol, donc ça devrait aller un peu mieux. Non, c'est une belle image.
Cela dit, il connaît le foot, le président Macron.
Oui, non, mais ça, on peut lui reconnaître. Il y a beaucoup de défauts, mais au moins celui-là, ça on ne pourra pas lui donner. On est bien d'accord.
Voilà donc pour Emmanuel Macron qui se rendra au Qatar. Et avant de basculer dans les incidents, d'y revenir, et on sera avec Jean-Christophe Couvy en duplex dans quelques instants, quelques messages là aussi, micro tendu de CNews avec les supporters et notamment les Français du Maroc ou les Marocains de France. Tout est entremêlé et dans la joie et la bonne humeur.
On est très heureux, on est super content, on est très fiers de notre équipe. On a fait un très beau match. C'était serré, les Anglais, ils n'ont pas lâché. À la fin, on a failli se faire égaliser, mais on a gagné. On est à demi. On est à demi. On est à demi.
On est content. On va retrouver les Marocains. On va voir ce que ça va donner.
C'est exceptionnel parce qu'en fait, ça représente deux victoires. Le pays d'origine est le pays d'accueil. C'est le pays où on est né et c'est notre pays de cœur. C'est le Maroc et la France. C'est un duo pour nous qui est exceptionnel et c'est la même chose parce qu'on aime de tout notre cœur ces deux pays.
Ludovic Toro, c'est ça aussi la société française.
Mais c'est ça aussi, regardez comme il parle. C'est ça qu'on veut entendre. Et je pense qu'une majorité le pense. Mais je voudrais aussi qu'il condamne cela. J'aurais bien voulu qu'il leur fasse un message à leurs compatriotes. Arrêtez de déconner. Arrêtez, nous ne sommes pas tous comme ça. Nous sommes intégrés aussi à ce pays, mais c'est encore, c'est 10 à 15%. Mais il faut les condamner, que les représentants aussi des religions les condamnent, que tout le monde les condamne. Ça aura plus de crédibilité que nous, bien évidemment, parce qu'ils sont issus de la même, du même pays. Mais il faut qu'ils les condamnent, il faut que les vieux les condamnent, faut que tout le monde les condamne, il faut les isoler. Mais pour l'instant, ils ne sont pas isolés. Personne ne les a jamais condamnés, qui sont marocains, pas, je ne les vois pas. Cette jeune fille et son mari l'a fait, mais est-ce que ça va porter, je ne suis pas sûr.
On va voir, on va en parler d'ailleurs, on va en débattre avec vous. Après les victoires du Maroc sur le Portugal et donc de la France sur l'Angleterre, et après la joie, en effet, il y a eu des incidents qui ont encore émaillé la soirée, ce n'est pas la première fois, et un peu partout en France, notamment sur les Champs-Élysées où il y avait 20 000 personnes. Les détails avec Mickaël Dos Santos.
Des scènes de joie au débordement, l'ambiance a radicalement changé aux alentours de 22h. À Paris et dans la petite couronne, 100 personnes ont été interpellées parmi les 20 000 supporters venus célébrer les victoires du Maroc et de la France. Sur les Champs-Élysées, les policiers et les gendarmes ont essuyé des tirs de mortier et des jets de projectiles. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour repousser ces groupes hostiles. D'autres villes françaises ont également été le théâtre d'affrontements. À Lille, plusieurs individus se sont attaqués aux forces de l'ordre et à du mobilier urbain. Scène plus étonnante, à Avignon, où un camion de marchandises a été pillé. Au total, 170 personnes ont été arrêtées. Au moins 33 policiers ont légèrement été blessés. Mercredi, de nouveaux incidents sont déjà attendus par les autorités. Selon nos informations, la rencontre France-Maroc est qualifiée de pire scénario pour la sécurité publique dans cette Coupe du Monde.
Ce qui est regrettable, William T., c'est que ces incidents sont prévisibles, puisque ça se déroule à chaque fois, dès qu'il y a des matchs de football, des victoires. C'est arrivé notamment avec l'équipe d'Algérie, quand elle a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, quand il y a eu des confrontations France-Algérie. Là, en l'occurrence, c'est le Maroc. Ce sont des incidents qui sont prévisibles, mais qu'on ne peut pas contrôler. Puisque c'est la foule, il y avait 20 000 personnes sur les Champs-Élysées tout de même, avec en plus 170 interpellations, 33 policiers qui ont été blessés, c'est considérable.
Oui, mais je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas contrôler. Parce que si on sait qu'on ne pouvait pas exclure une victoire du Maroc, par conséquent, les forces de l'ordre ou les renseignements intérieurs pouvaient prévoir ce qui allait se passer. Et à chaque fois, on dit toujours la même chose. Du moment où le Maroc joue, où l'Algérie joue la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, et a une chance probable de victoire, pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas les moyens nécessaires pour assurer la sécurité, notamment aux Champs-Élysées ou dans les points dits sensibles? On le fait à chaque fois le 31 décembre au soir. On a une liste à chaque fois, il y a une liste de produits à ne pas vendre, etc. Parce qu'on sait que des voitures vont être brûlées. À partir du moment où on sait qu'il y a un risque, et du coup, il faut que le gouvernement et les autorités publiques réagissent en ce sens-là. C'est le premier élément. Le deuxième élément, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que des gens, lorsqu'une équipe gagne et qu'ils sont heureux, ils ont besoin de casser des choses. Je ne comprends pas le rapport, en fait. Quand vous gagnez, vous êtes heureux, pourquoi est-ce que vous avez besoin de manifester de la violence, de la colère, etc. Si leur équipe perdait, à la rigueur, je comprenne qu'ils cassent quelque chose, ça peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils manifestent des cas de violence et ils cassent tout lorsque leur équipe gagne? Moi, je pense.
C'est une minorité qui casse.
Moi, je pense, en fait.
Sur les 20 000 hier, il y a peut-être 5-10%.
Justement, on y arrive. Moi, je pense que ma théorie, c'est que ceux qui sont là pour casser s'en foutent, en fait. Ils utilisent un événement sportif comme prétexte pour venir tout casser, pour venir piller, pour faire leurs courses aux Champs-Élysées, éventuellement casser quelques vitrines et faire leurs courses de Noël en amont. Et je pense que ceux-là, c'est comme, un peu comme les Black Blocs, c'est-à-dire que ce sont les mêmes quand il y a une victoire du PSG, quand il y a une victoire du Maroc, quand il y a une victoire de l'Algérie, etc. Donc les services de police, les services de renseignement sont capables de les identifier avec les caméras de vidéosurveillance, les renseignements intérieurs, pour mettre ces personnes-là hors d'état de nuire. On a réussi pendant la crise sanitaire à confiner 66 millions de Français. On ne peut pas confiner 200 personnes qui viennent foutre la casse partout à chaque représentation sportive. Il faut juste un peu de courage et il faut que les représentants publics le fassent.
Oui, évidemment. Je vais céder la parole à Jean-Christophe Couvy qui nous a rejoint dans quelques instants, secrétaire national de Unité SGP, pour en savoir un petit peu plus sur ces manifestants et sur ces incidents. Mais Benjamin Cauchy, votre sentiment, en effet, on a l'impression que ceux qui cassent, ceux qui viennent pour casser véritablement, pour créer le trouble, ne sont pas du tout concernés par les matchs de football, mais ils sont là comme ils pourraient l'être sur une manifestation contre la SNCF ou que sais-je encore pour la lutte ou la liberté de je ne sais quoi.
Absolument. Enfin là, pour le coup, moi j'ai le sentiment que ce match était le cheval de Troie de tous ceux qui veulent casser ou abîmer la France. Donc vous avez effectivement un morceau que sont, on va dire, des communautaristes religieux qui veulent utiliser du coup le drapeau marocain pour faire une offensive islamiste dans le pays. Donc ceux-là, ils sont clairement identifiés. Et puis après, vous avez surtout, pardonnez-moi ce terme, mais c'est une sacrée bande de branleurs qui interviennent dans toutes les manifestations depuis 5 ou 6 ans, que ce soit les manifestations du 1er mai, que ce soit les manifestations contre la réforme des retraites. Je l'ai vu de mes yeux, des casseurs Black Bloc casser le magasin BMW à proximité de d'Enfer, Rochereau-Montparnasse, sur la route des manifestations. C'était pas des gens de la France Insoumise, c'était pas des gens du Parti Socialiste, c'était des gens qui étaient venus casser. Je fais ce parallèle volontairement, puisque désormais, chaque attroupement, chaque manifestation est l'occasion pour certains de venir cracher leur exutoire. Et donc, au-delà de cette, vigilance particulière avec ce match avec le Maroc, parce que clairement, quand vous avez un joueur marocain qui se dit qu'il veut jouer pour l'ensemble du peuple musulman, forcément, vous avez tous les ayatollahs de l'autre côté ethno-identitaires qui vont dire « Oh là là, oh loup, nous allons avoir un match et un conflit civilisationnel la prochaine fois ». Il ne faut pas tomber dans ce drame-là. Mais en revanche, effectivement, là, l'État a tout son rôle pour séparer le bon grain de l'ivraie. Là, il y a du boulot à faire.
Jean-Christophe Couvi, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce qu'on connaît le profil, d'ailleurs, de ces fauteurs de troubles ? Parce qu'on le disait avant que vous nous rejoigniez sur l'antenne de CNews, ces manifestations sont assez récurrentes. En tout cas, après les matchs, elles se propagent de plus en plus. Est-ce qu'on a pu identifier, est-ce qu'on sait qui sont ces individus ?
Oui, bonjour. Bon, les individus, effectivement, souvent, ils viennent de quartiers populaires qui s'identifient justement à des pays du Maghreb pour ce match-là. Parce qu'on voyait des drapeaux marocains, il y avait des drapeaux algériens. C'était un peu le Maghreb United. Mais ça, on peut comprendre les moments de joie, parce que c'est vrai que c'est historique pour eux. Après, effectivement, on a toujours une minorité, encore une fois, qui vient jeter l'opprobre sur toute une communauté. Et par contre, cela, c'est pas nouveau. Moi, les collègues, je me rappelle, en 1998, sur les Champs-Élysées, il y avait les géants, vous savez, l'ouverture des mondiaux de Coupe du Monde. C'était pareil. Il y avait aussi des jeunes qui étaient venus pour casser, pour piller, pour attaquer certaines personnes. Et les collègues m'avaient dit, c'était une boucherie. Voilà, parce que, justement, à l'époque, ça répondait. Donc il nous faut une police un peu musclée, sauf que depuis 20 ans, en fait, on donne aussi des signaux à ces jeunes-là en disant « attention, il ne faut surtout pas les blesser, il faut laisser faire, vaut mieux qu'on casse du matériel plutôt qu'il y ait des blessés ». Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont pris confiance aussi en eux et il va falloir maintenant que la justice soit vraiment, très forte, qu'elle assume aussi de faire des grosses condamnations, puisqu'il y a 874 interpellés. Après, on sait que c'est compliqué des fois, sans preuve, parce qu'il faut fournir la preuve de que les personnes ont cassé ou étaient dans cette manifestation violente. Et souvent, c'est là-dessus que les avocats rentrent dans les procédures et des fois, elles sont cassées. Voilà. Donc, sur des maintiens de l'ordre qui deviennent, on rétablit l'ordre, en fait. C'est même plus du maintien de l'ordre maintenant. C'est qu'après, quand on a une émeute, on rétablit l'ordre. Mais de temps en temps, il faut faire aussi des bons offensifs, comme on a vu hier soir. C'est un peu musclé. Mais je peux vous dire que ça fait aussi du bien, montrer que la police est forte et qu'elle ne recule pas.
Jean-Christophe Couvi, peut-on craindre encore plus d'incidents mercredi soir, donc au soir de la demi-finale entre la France et le Maroc? On rappelle qu'il y avait 20 000 personnes quand même sur les Champs-Élysées. Ça risque d'être beaucoup plus, quel que soit le résultat. Et on imagine que si un scénario qui pourrait être considéré comme injuste, ça pourrait être pire en effet. Donc est-ce qu'on peut craindre ces incidents? Et est-ce que l'idéal, ce ne serait pas de fermer les Champs-Élysées pour que justement la foule ne puisse pas s'y rendre?
Mais en fait, c'est bien sûr que ça va être un duel, un duel annoncé, j'allais dire, alors qu'au départ, ça doit être un duel sportif, comme dans tout sport. Sauf qu'en fait, certaines personnes vont essayer de le politiser ou d'amener le focus sur des éléments violents. Alors après, ça va être une décision du préfet. Est-ce qu'effectivement, il ferme les Champs-Élysées? Pourquoi pas faire une fan zone? Et au moins, on peut filtrer les gens et les contrôler. Après, c'est une décision politique. Ça ne sera pas une décision de la police. Mais il faut aussi voir dans les autres villes. Je vois qu'il y a eu des débordements à Avignon, à Lille, à Bordeaux. Enfin, moi, j'ai les retours des compagnies de CRS qui ont utilisé beaucoup de bombes, de grenades lacrymogènes et de cougars. Enfin, c'est des bombes lacrymo pour disperser les foules. Donc il y a maintenant toutes les villes moyennes où effectivement on voit des casseurs qui viennent pour se servir de moments de liesse comme ça, comme alibi en fait.
Ludovic Toro, on ne peut pas interdire la fête, on ne peut pas interdire à la foule et aux gens de se rendre sur les Champs-Élysées ou ailleurs.
L'image était super bien du cheval de Troie. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à les laisser dans le cheval. Et on n'arrive pas. C'est ça la vraie problématique. Quand Gérard Lanvin a dit qu'il fallait un taulier, c'est exactement ça. Le problème aujourd'hui, il faut que la peur change de camp. Parce qu'en effet, le policier nous dit, mais on ne doit pas les toucher, surtout au cas où. Et eux, ils vous touchent. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'eux peuvent blesser les autres, mais surtout de la peur éventuellement d'un soulèvement, on ne fait rien. Je suis désolé. La peur doit changer de camp. Qui sont les bons, qui c'est les mauvais? Il faut que l'État, les bons, c'est les policiers, les mauvais, c'est eux, très clairement. Donc à un moment, voilà, ils savent qu'ils ne craignent rien. Et puis ceux qu'on va choper, ils seront interdits à tout jamais de manifestation. Point final, on peut les reconnaître. Il faut être dur. Si on n'est pas dur, ils le savent. Ils savent très bien ce qu'ils encourent. Et ils n'encourent rien. Donc c'est... ils vont continuer. Il faut mettre un mur.
C'est parce qu'on n'est pas dur.
Mais bien sûr.
Parce que on peut aller voir des images sur Internet, mais Plate Jemaa el-Fna à Marrakech ou à Rabat hier. Il n'y a eu aucun débordement.
Non, mais c'est ce que nous disait Gérard Lanvin. Parce que c'est bien, il est à Marrakech.
Mais ce qu'a oublié de dire Gérard Lanvin, c'est que le système judiciaire et le système de répression policier au Maroc, c'est quand même pas la même mélodie qu'en France. Donc, la gestion de la paix sociale se fait de façon différente d'un côté à l'autre de la Méditerranée. Donc, s'il y a un débordement Plate Jemaa el-Fna, vous passez 3 minutes Plate Jemaa el-Fna et le reste de la soirée, dans un panier à salade. En France, non, on va trouver une excuse, on va légitimer, vous comprenez,
c'est le rappel à l'ordre.
Voilà, on a toujours des excuses.
Rappel à l'ordre. Faut supprimer le rappel à l'ordre, ça rime à rien. Ils partent de chez eux avec des tirs de mortier. Quand vous faites la fête, vous ne partez pas avec des tirs de mortier, ou alors je ne comprends rien.
Des feux d'artifice, mais en visant les policiers.
Évidemment, ils ne partent pas pour en l'air. Ils savent très bien qu'on n'arrive pas à les bloquer là-dessus. Ils en ont de plus en plus, vous n'avez qu'à voir. Ils les ont par commande, par tout ça. Non, franchement, il faut durcir.
Mais l'idée de la fan zone, ce n'est pas bête.
Bien sûr.
Alors, elles sont interdites, les fan zones.
C'est pas Covid friendly, c'est pour ça.
Non, c'est parce que c'est le Qatar. C'est une manière de manifester contre tout ce qui s'est passé au Qatar et donc de boycotter la Coupe du Monde.
Et aussi pour cette raison qu'il n'y a pas eu de fan zone.
Et notamment à Paris. On va continuer le débat parce qu'il s'est politisé avec des déclarations politiques et notamment d'Éric Zemmour et on en parlera après 16h avec vous Jean-Christophe Couvi et avec nos invités. Mais juste un mot sur effectivement la justice à chaque fois pour les mêmes manifestations, qu'elles soient d'ailleurs d'ordre sportif, après des matchs de football ou pas. Si effectivement ces fauteurs de troubles ne risquent rien, ils vont forcément recommencer. Donc c'est le serpent qui se mord la queue.
Oui, mais en fait, il faut comprendre aussi que la justice, alors c'est vrai qu'on leur tape dessus, c'est des boucs émissaires en ce moment, mais en même temps, quels moyens on leur donne? C'est-à-dire que les prisons sont pleines, tous les jours, il y a un magistrat, il commence sa journée, il a un tableau avec des places libres, et par exemple, pour 10 places libres pour la journée, il y a par exemple 20 à 30 personnes qui pourraient aller en prison, donc lui aussi, il fait des choix. Et donc, en fait, on est obligé de trouver des peines alternatives. Mais les peines alternatives, souvent, ne sont pas des bons messages non plus, parce que c'est des messages de laxisme. Enfin, c'est comme ça que ces voyous les reçoivent, en fait, si vous voulez. Donc, pour nous, on a l'impression d'avoir une réponse pénale, sauf qu'en fait, pour eux, c'est la rigolade. Et du coup, ils choisissent toujours ce côté, j'allais dire, de la délinquance, parce que ça leur rapporte, parce qu'ils font peur. Et c'est surtout cette peur-là qu'ils arrivent à influencer un peu les gens, à leur donner cette peur, et du coup, ils en jouent. Et c'est là-dessus, effectivement, comme on disait, il faut que la peur change de camp. Il faut que maintenant, il faut taper fort, et bien, mais cibler.
Et les déclarations politiques, on en parle dans quelques instants, puisque, évidemment, la classe politique, et notamment Éric Zemmour, ont réagi à ces incidents. On en parle juste après la pause et après les informations, avec Jean-Christophe Cuvy et avec nos invités, sur le plateau de 90 Minutes Info. À tout de suite. D'autres débats à venir dans 90 Minutes Info en direct sur CNews avec nos invités William T, Benjamin Cauchy, Jean-Luc Taureau, également Ludovic Taureau plus exactement. Il y a trop de prénoms. Jean-Christophe Couvi qui est en duplex également avec nous et Adrien Spiteri pour l'information. À tout de suite.
Les Républicains connaîtront ce soir le nom de leur nouveau président. Le deuxième tour a lieu aujourd'hui entre Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Le scrutin électronique sera clos à 18h. Le parti espère une forte mobilisation. Il y a eu 73% de participation au premier tour le week-end dernier. Nouveau drame dans les Alpes, un skieur de 55 ans est décédé hier dans une avalanche. Il a été pris dans une coulée alors qu'il faisait du hors-piste avant d'être retrouvé mort par les secours. Il s'agit du troisième accident mortel en une semaine dans les Alpes. Deux conférences sur l'Ukraine sont organisées mardi à Paris. Emmanuel Macron le confirme sur son compte Twitter aujourd'hui. Au cœur des discussions, la reconstruction de l'Ukraine et ses besoins pour passer l'hiver. Des centaines d'entreprises françaises devraient participer à cette conférence. Et puis Moscou accélère la production d'armes puissantes. Dmitri Medvedev l'affirme dans un message publié sur son compte Telegram. Le vice-président du Conseil de sécurité russe semble faire référence aux nouvelles générations d'armes hypersoniques. Les revers militaires russes des derniers mois font craindre l'utilisation d'une arme nucléaire en Ukraine.
Nos débats, on continue, on prolonge le débat autour de ces incidents après la qualification du Maroc pour les demi-finales et de la France aussi, puisque les deux pays vont s'affronter mercredi. On en a largement parlé avec nos invités. Mais ces incidents, on y revient et ils ont suscité des réactions politiques, notamment d'Éric Zemmour, puisque beaucoup de Français d'origine marocaine ou maghrébine parmi la foule hier soir, les fauteurs de troubles également dont on parlait avec Jean-Christophe Couvi après la qualification des Lions de l'Atlas. Et voilà ce qu'a dit en substance ce midi Éric Zemmour, qui regrette que les supporters n'encouragent pas la France. On ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Moi je dis que quand on est français, on est pour la France. Il va un tout petit peu plus loin également en prenant l'exemple de l'équipe du Sénégal qui a été éliminée, mais qui dit: si vous aviez 9 joueurs blancs dans l'équipe sénégalaise, je pense que les Sénégalais s'interrogerait. Cela veut dire, William T, qu'il y a, selon Éric Zemmour, enfin je l'imagine, qu'il y a trop de Noirs en équipe de France.
Moi, la première partie sur quand même sur quand on est d'origine, il faut supporter l'équipe de France, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'à chaque fois, il faut soutenir l'équipe de France parce que c'est le pays où vous choisissez d'habiter. Et donc du coup, quand vous devenez français, vous soutenez la France globalement et c'est pas la France à la carte, c'est pas vous choisissez ce qui vous plaît, les aides sociales d'un côté, après vous soutenez un autre truc de l'autre côté. Donc vous soutenez la France. Sur la deuxième partie, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il sous-entend en fait que être français ou être sénégalais, c'est une question de couleur de peau. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et lui-même, en fait, si par cas il s'appliquait cette définition à lui-même, il serait pas français. Et donc du coup, il devrait se regarder dans une glace en se posant la question: est-ce que moi, en disant ça, je colle à ce que moi je suis? Il est berbère, je crois, de confession juive. Et donc du coup, il colle pas à l'idéal de ce qu'on appelle la France éternelle du général de Gaulle en termes d'imaginaire collectif. Et pourtant, il est aussi français que vous et moi. Et donc du coup, je pense que c'est là où il se trompe. Quand il dit que je pense que les Sénégalais, quand ils ont des blancs, c'est pas leur souci. Leur souci, c'est d'avoir des bons joueurs de foot dans l'équipe du Sénégal et que leurs joueurs de foot soient capables de marquer et de leur faire gagner. Et je pense que nous, notre sujet, c'est le même. C'est pas on choisit les joueurs de l'équipe de France en fonction de leur couleur de peau, c'est en fonction de leur performance. Si le type est bon, eh ben on le fout. Et si que ce soit blanc, jaune, arabe ou quoi que ce soit, eh ben on le fout à mesure où il est bon. Et je pense que là, Éric Zemmour dérive parce qu'il comprend mal ce que c'est que l'histoire de France et il essaie de confondre et il essaie d'importer. En fait, il se fait avoir par les guerres civilisationnelles américaines et lui-même se fait avoir comme les Américains sont fait avoir face aux wokistes et face au type de la cancel culture.
Benjamin Cauchy, selon vous, est-ce qu'Éric Zemmour a dérapé avec ses propos ou est-ce qu'au contraire, il est en contrôle?
Oui, il contrôle toujours, Éric. Et je pense qu'il est, il a une pensée complexe et donc lorsqu'il arrive sur un plateau de télévision, laissez-moi finir, je ne fais pas de langue de bois, surtout pas avec lui, que j'apprécie beaucoup.
Pensée complexe, c'est ce qu'avait dit la Macronie, quoi. Absolument. Il dit que le groupe intelligent est trop complexe.
Non, il parlait de subtilité. C'est Gilles Legendre. Oui. Non, mais là, quand je parle de pensée complexe, c'est-à-dire que c'est très difficile de résumer la pensée de quelqu'un sur une punchline de 30 secondes à la télévision. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas répondu à votre question. Pour moi, il y a effectivement une dérive ethno-identitaire. Et là, je ne reconnais pas le Éric Zemmour du début de campagne des élections présidentielles. On était effectivement sur cette valeur et sur ce pilier fort qui était l'assimilation, le principe d'assimilation. Que vous soyez blanc, noir, arabe, que vous soyez musulman, juif ou catho, qu'importe, vous aimez la France, vous aimez ses valeurs, vous aimez son histoire, vous aimez sa tradition. Je reprends les mots qu'Éric Zemmour utilisait en ce début de campagne, et là-dessus, on a réussi à l'époque à attirer les gens sur ce roman national, sur cette histoire nationale. Aujourd'hui, en pointant des sujets ethniques, déjà au Palais des Sports, parler d'hétérogénéité ethnique. Est-ce qu'il était utile de parler d'ethnicité? Est-ce qu'on ne pouvait pas simplement s'atteler au multiculturalisme, qui est le ferment du communautarisme? Je pense que ça suffisait pour exprimer les choses. Donc là, Éric Zemmour est en train de dévier au fur et à mesure de la notion d'identité à ethno-identité. Je trouve que c'est un virage dangereux dans lequel, en tout cas, moi, je ne me reconnais pas.
Oui, Ludovic Toro, votre sentiment. Est-ce qu'on dirait la même chose ou est-ce qu'Éric Zemmour pourrait dire la même chose des Italiens ou des Espagnols? Si, par exemple, ce n'était pas le Maroc, mais c'était l'Espagne qui s'était qualifiée. Est-ce qu'il dirait la même chose? Non, alors, de la communauté espagnole qui vit en France, exemple.
Bien sûr que non, et vous le savez. Moi, je suis moitié italien, moi, je suis français. Quand il y a un match France-Italie, je suis pour la France, d'accord? Ça, c'est clair. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Le sport, c'est l'assimilation. Regardez les prochains JO. Si on fait pas conquérir tous ceux qui sont assimilés, on n'aura pas beaucoup de médailles d'or. Ça, c'est une chose certaine, d'accord? Deschamps, il a pas choisi les gens sur leur couleur. Il a choisi sur une équipe qui peut gagner, point final, on le voit bien. On peut pas avoir des discours comme ça. Parce que je pense, en effet, que ça va être dans l'extrême de l'extrême. Et ça va plus être écouté parce que c'est pas logique. C'est pas ce qu'on vit, nous, au quotidien. Que dans toutes les équipes qu'on a, il y a une multitude d'origines et on gagne. Et on fait monter le meilleur dans l'équipe. C'est clair. Ne disons pas qu'on a choisi sur leur couleur de peau. Là, on divague complètement. Là, on est hors sol.
Alain Finkielkraut, qui était l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1, les Échos, s'est exprimé également sur ces incidents d'après-match. Et lui, vous allez l'entendre, il parle de francophobie.
J'ai bien peur que l'illusion du vivre ensemble dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre va en prendre un sacré coup, car il y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de s'acharner aussi sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France.
Voilà ce que disait Alain Finkielkraut. William T. Est-ce qu'on peut être francophobe? Est-ce qu'on peut parler de francophobie quand on supporte une équipe de football de son pays d'origine ou du pays de ses parents ou de ses grands-parents?
Là, il aborde un point qui est intéressant. Et quand vous avez fait votre collège ou votre école primaire ou votre école secondaire dans une banlieue et que votre collège était de secteur dans une cité, vous comprenez ce qu'ils disent. Ce qui se passe, c'est que vis-à-vis d'une jeune population d'origine immigrés d'Afrique Maghreb ou Afrique subsaharienne, ils sont élevés, ils sont construits dans l'anti-France. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, de plus en plus, tiennent des discours anti-France. Moi, ça m'est arrivé lorsque, par exemple, vous soutenez la France, vous portez un maillot de l'équipe de France, etc. Vous êtes interpellé à côté d'un tram, etc., en vous disant t'es un traître, etc., parce que tu soutiens la France, et donc du coup, t'es un vendu. Et quand on a des amis noirs qui font la même chose que nous, et ben, ils disent que ce sont des bounty, c'est-à-dire qu'ils sont noirs à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Et ça, tout le monde est capable de vous le dire. Ça veut dire qu'il y a une grande partie auprès de la deuxième, troisième génération de Français venus de l'immigration d'Afrique subsaharienne et du Maghreb qui sont construits dans l'anti-France. Et donc, du coup, qui utilisent les victoires du Maroc ou les matchs de foot ou toutes les fins qui peuvent être, comme l'a appelé Benjamin Cauchy, une sorte de cheval de Troie, pour en fait manifester leur haine de la France. Je ne sais pas en quelle proportion c'est, mais ça existe véritablement. Et toutes les personnes qui soient parents d'élèves, qui ont été élèves dans un collège de secteur à côté d'une cité, sont capables de vous tenir exactement le même discours.
Mais ce n'est pas représentatif de l'intégralité de la population, c'est-à-dire les 20 000 personnes, notamment Benjamin Cauchy, qui était sur les Champs-Élysées hier. On ne peut pas leur dire « vous êtes francophobe, vous êtes anti-français ou de mauvais français parce que vous allez fêter la victoire du Maroc alors que vous vivez en France. »
Je crois qu'il faut dissocier deux sujets. Il y a deux sujets. Il y a le sujet, la France va affronter le Maroc et des binationaux ou des Marocains sont descendus sur les Champs-Élysées pour fêter leur équipe nationale ou parce que leur grand-mère est marocaine et ils fêtent cela. Ça, c'est une chose. Et il ne faut pas tenter d'utiliser ce match France-Maroc pour reparler du grand remplacement. Parce que c'est là en fait toute la dérive qu'on entend au travers Finkielkraut, au travers de Zemmour ce midi chez vos confrères. C'est cette tentation de vouloir exploiter ce match France-Maroc pour parler du grand remplacement. Il y a un sujet sur le grand remplacement, je crois qu'on en parle assez régulièrement, et même Darmanin, maintenant, quand il donne des stats, donne raison à Éric Zemmour. Mais pour autant, je pense qu'il est important de dissocier ce match sportif du problème du grand remplacement, véritablement. Sinon, on ne met que de l'huile sur le feu, on exploite ce match, on attise les braises pour mercredi. Donc moi, je n'espère qu'une seule chose, c'est que ça se passe bien. Et s'il y a des gens qui n'aiment pas la France, mais qui regardent leur match depuis leur poste de télévision, depuis leur poste de maison, dans leur canapé, tout simplement.
C'est toute la question de la double nationalité, de la double culture,
oui.
du double passeport également.
Oui, tout à fait. Mais je pensais tout à l'heure, je disais qu'il faut que les parents inculquent, mais il y a quelqu'un que tous les Marocains respectent, c'est Mohamed VI. Le roi du Maroc. Quand le roi du Maroc voit ce qui se passe, des ressortissants et de la diaspora, il devrait dire à tous ces Marocains, ce n'est pas l'image que je veux. Arrêtez.
C'est de l'ingérence.
Mais il n'a pas. Mais arrêtez ça, avec. Déjà. Mais ne parlez pas d'ingérence. Écoutez-moi.
C'est même pas une question d'ingérence. À partir du moment où il s'adresse aux Marocains.
J'ai compris.
Il prend la responsabilité.
J'ai compris. Mais vous savez, tous ces gens qui attaquent, ce ne sont pas français. On l'a bien compris.
Donc ils sont français.
Il y en a qui sont français.
Oui, non, vous n'avez pas compris.
Même la majorité.
Ils se sentent pas.
Oui,
la majorité. Je parle de ceux qui cassent.
Ils mais ceux qui cassent, ils sont français.
Mais oui, je. Mais
le pire, c'est que souvent ceux qui cassent, ils sont même. Ils ont même pas de double nationalité.
Ils ont jamais mis un pied à Marrakech.
Oui. Mais ils ont quand même le drapeau marocain sur leur dos.
Ça, c'est l'utilise.
Oui, mais écoutez-moi. Il faut que quelqu'un se mouille un jour ou l'autre. Le roi du Maroc, je vous promets. Que sur les Marocains, il a une importance et surtout sur les papas.
Alors, regardez ce que dit Éric Zemmour au sujet de Mohamed VI. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc et les Marocains si à Marrakech, des milliers de Français célébraient la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays. Qu'est-ce que vous répondez, Ludovic Thoreau?
De toute façon, ce que dit Zemmour là, il a raison. De toute façon, s'il y a une fête là-bas, il y a pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, et Gérard Lanvin l'a dit, il y a eu la fête hier au Maroc, tout le monde était content.
Bah oui.
Et nous, c'est la guerre. C'est
et
la guerre civile à chaque fois.
Les Français communient avec les Marocains
mais
hier
bien
au Maroc.
Sûr, et c'est ce qu'on voudrait tous. Mais c'est ce qui se passe.
Il n'y a pas eu d'incident.
Mais voilà, et vous verrez, je ne sais pas ce qu'ils vont décider pour mardi prochain, mais ça va mal finir, parce qu'il n'y a pas que Paris, hein. Il y a toutes les capitales où ça va bouger. Bien et bien on ne pourra pas mettre ça partout. Je dis qu'à un moment, on doit se mettre tous ensemble pour leur dire à eux. Un, c'est pas bien, ils en ont rien à faire, je suis d'accord. Et après, la sanction. La sanction est absente de tous les débats.
Un mot de conclusion de Benjamin Gauchy sur ce sujet.
Juste, alors je suis pas d'accord avec toi sur le fait que le roi du Maroc s'exprime là-dessus, parce qu'à partir du moment où il réagit en marge d'événements qui sont passés en dehors de son pays, un, il y a effectivement la notion d'ingérence dont parlait William, mais surtout le fait qu'à partir du moment où il parle de cet événement, bah, quelque part, il fait endosser la responsabilité des dégâts à des prétendus Marocains.
Mais ce sont là surtout des Français d'origine marocaine.
Voilà. Donc, puis, si tu veux, à quel moment.
Pas, et puis, il veut même pas aller récupérer chez lui.
Ah, bah ça, c'est sûr.
Il en veut pas.
Il y a une Coupe du Monde en jeu, c'est pas des laissez-passer consulaires. C'est
exactement.
Ça, on l'a compris.
Alors qu'il peut y avoir effectivement un sujet également dans une histoire de passeport et de diplomatie entre la France et le Maroc dans les relations.
Le problème. Je suis d'accord avec vous. Donc, quelle est l'autorité aujourd'hui qui peut influencer ces jeunes?
Mais non, c'est nous.
Attends, je sais, William.
C'est pas très loin, c'est
l'Élysée. Oui, je suis d'accord. Les parents, c'est plus possible. On s'est bien rendu compte. Donc après, en effet, c'est le gouvernement.
C'est le gouvernement.
Et il faut un taulier, comme disait Gérard Lanvin.
Quand tu viens de l'immigration, tu vois la différence culturelle. Moi, je parle de mes parents, et eux, c'est pareil, parce que j'ai grandi avec eux. Ils viennent, ou leurs parents viennent d'un pays qui est très autoritaire, et tu débarques dans un pays laxiste. Et donc, forcément, tu prends ton aise, et t'es dans un club med.
Ouais,
voilà, c'est comme
bien.
Ça que ça se passe.
Moi, je pense...
Tout le monde le sait. Tous ceux qui ont grandi dans une cité...
Oui.
Vous le diront la même chose. Les parents, ils peuvent pas s'en occuper parce qu'ils ont des familles qui sont très nombreuses. Souvent, ils cumulent un ou deux emplois et en fait, ils s'en occupent pas. Ils délèguent ça aux grands frères ou sinon, ils sont délégués au type de la cité. Et donc, le type de la cité, forcément, il l'utilise pour son business à lui plutôt que les éduquer dans le bon sens. Et ça se passe comme ça, c'est tout.
L'actualité encore. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir véritablement. On va retrouver aussi Jean-Christophe Couvi pour évoquer et avoir son expertise sur. Ce fait divers, mais c'est peut-être plus qu'un fait divers tout de même, c'est cet homme de 88 ans qui est mort après avoir été sauvagement agressé à Besançon dans le Val d'Oise, en région parisienne. Les secours avaient d'abord pensé à un accident. En fait, ce sont deux voisins connus des services de police qui sont suspectés. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. On va en parler avec nos invités, mais d'abord les détails avec Marine Sabourin.
Dans cette résidence, l'émotion est forte. Un octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups par deux de ses voisins. Les habitants n'arrivent pas à réaliser.
Ça me choque. C'est un monsieur très gentil.
C'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années, qui a élevé ses enfants ici. Je comprends pas, je suis sur le derrière.
Deux frères ont rapidement été suspectés. Après une perquisition dans leur appartement, le sang de la victime est retrouvé sur une paire de baskets. Les deux hommes sont très défavorablement connus des services de police, notamment pour des faits de violence, trafic de drogue et d'armes ou encore séquestration.
Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées facilement une cinquantaine de fois. Tout le temps, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Je les ai déjà vus se taper la tête contre les murs. Pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. C'était des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Il y a une faille dans le système. Il y a une faille. Elle vient pas de nous.
L'un des deux frères a été hospitalisé d'office après une expertise psychiatrique. Le second, âgé de 30 ans, a avoué les faits et a été placé en détention provisoire.
Voilà, ce crime aurait pu être classé dans le registre des accidents de la vie courante, peut-être resté impuni. Fort heureusement, Jean-Christophe Couvi, on a pu avoir les informations, les forces de l'ordre ont pu avoir les informations. C'est allé assez vite tout de même. Est-ce que vous avez déjà votre expertise sur cette affaire, sur ce dossier ?
Alors en fait, déjà, quand on découvre une personne décédée, on fait des constatations. C'est l'officier de police judiciaire qui arrive, qui fait des constatations et qui nous donne des indices. On voit ça aussi avec le médecin légiste, savoir comment la personne est décédée. Donc là, effectivement, je pense que l'OPJ n'avait pas tout le retour sur l'enquête et pouvait pas peut-être déclencher une enquête judiciaire. Mais après, je crois que c'est le fils, d'après ce que j'ai compris, qui a sensibilisé la police en disant qu'il manquait notamment les lunettes de la personne et un autre objet. Donc du coup, on a orienté une enquête et c'est là où on a découvert effectivement qu'il y avait les deux frères là, qui vivaient dans cet immeuble. Et c'est comme ça qu'on a pu les interpeller. Alors moi, ce qui m'interpelle, en fait, et c'est le témoignage de mon collègue là, qui est poignant, parce qu'en fait, c'est ce que tous les policiers, tous les jours, ressentent. C'est-à-dire qu'on connaît, on a identifié, nous, dans toutes les villes de France, les fauteurs de troubles. On connaît des gens qui vivent que dans la délinquance. C'est des familles, c'est des frères, des fratries, etc. Et en fait, ces gens-là, c'est des verrues. On ne peut rien en faire. On ne peut pas les traiter. Et nous, quand on les interpelle, après, derrière, alors oui, la justice, des fois, les juges, les emmène en prison, les enferme, leur donne des notions de privation de liberté, sauf qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas et, en fait, derrière, il n'y a pas de suivi. Et il faut expliquer aux gens. Alors hier, je sais que la maire de Beson était présente sur ce plateau. On avait échangé. Et effectivement... quand on écoute les politiques, c'est jamais leur faute. C'est-à-dire que c'est pas sa faute à elle si ces deux personnes-là profitaient, j'allais dire, de logements sociaux parmi des gens tout à fait respectables, alors que c'est des fripouilles, hein, c'est des vendeurs de drogue, c'est tout ce qu'on veut. Mais ils étaient là quand même avec des loyers très modérés. C'est pas la faute donc de la maire, c'est pas la faute du préfet, c'est pas la faute de un tel, c'est pas la faute. Et tout le monde se renvoie la balle, sauf qu'en fait, à la fin, ben, on ne sait pas qui les a logés. Donc ils ont bien quand même déposé un dossier, à un moment donné, pour vivre parmi les gens respectables. Et en fait, c'était encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui dénuisibles, qui sont là et qui pourrissent la vie des gens ordinaires. Et ça, on n'arrive pas à traiter ce problème-là en France. On n'arrive pas à trouver une solution. Et forcément, il va falloir que les hommes politiques, nos politiques, s'emparent du sujet parce que la société, elle devient vraiment délétère.
C'est vrai que la maire de Beson était sur le plateau de CNews. Elle estime d'ailleurs que les communes manquent de moyens pour assurer la sécurité de tous les administrés. On va en parler, et notamment avec vous, Ludovic Taureau, qui êtes maire. Mais on écoute d'abord le sentiment de cette maire de Beson.
Il y a une forme de centralisation des pouvoirs, là où on devrait être davantage dans une forme de décentralisation sur les acteurs locaux qui savent aujourd'hui quelle réponse apporter. Donc quand on jette la pierre au maire, c'est une mauvaise réaction et c'est une méconnaissance en réalité du terrain et on ne peut pas agir là-dessus. Donc moi, si on veut vraiment être constructif dans le débat et aider les gens de bonne volonté comme moi, tous les maires, les élus aujourd'hui sur le territoire qui veulent agir et qui veulent agir sur la question de la sécurité, moi je suis quelqu'un de gauche mais je n'ai pas de tabou sur la question de la sécurité. Je l'ai fait, je l'ai dit, je demande la plus grande sévérité. Mais je demande aussi des moyens qu'on puisse m'accompagner pour agir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Ludovic Taureau, est-ce que vous partagez en tant que maire les propos et les sentiments de la maire de Beson?
Je vais lui enlever. Le système des logements, on n'a rien à voir, on n'a pas le casier du cher. De toute façon, on ne choisit plus maintenant les logements sociaux. Avant, on avait un tiers. Maintenant, on n'a plus rien. C'est remis aux EPT. Si vous n'étiez pas d'argent et logement, vous avez aucune place.
Mais EPT, ça reste les élus locaux.
Non, c'est 14 personnes qui ont des visions totalement différentes. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que les maires ont de moins en moins de pouvoir. On parle de décentralisation. En fait, on centralise de plus en plus. On donne à l'autorité au-dessus le choix de qui on met.
Oui, maintenant, mais l'autorité au-dessus, c'est pas l'État.
Non, mais c'est les collectivités, mais ils sont pas tous d'accord sur 14 maires.
Ah oui, mais c'est à vous de vous entendre.
Non, mais attends, c'est pas si facile que ça, parce que t'as pas le casier judiciaire non plus.
Et Jean-Christophe Couvier a raison. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre.
Excuse-moi, regarde. Si on n'a pas le pouvoir de décider, et que c'est l'État qui l'a. Sur les logements
sociaux. C'est pas l'État qui a le pouvoir sur les logements sociaux.
Mais bien sûr que si. Mais laisse-moi finir. Attends, excuse-moi de dire ça. C'est théoriquement, dans le temps, c'était un tiers l'État, un tiers le bailleur, un tiers la ville. C'est ce porte-garante et qu'elle met de l'argent pour la construction. Comme on n'a plus d'argent, on n'est plus garant. Donc aujourd'hui, on a 0%.
Mais pourquoi vous n'avez plus d'argent?
Mais parce qu'on nous donne une DGF qui est plus
importante. Mais non, c'est pas vrai. Parce que.
Pardon?
Depuis 2000.
S'il te plaît.
Depuis 2000.
Non, s'il te plaît. Arrête.
Depuis les lois de décentralisation.
Arrête.
Depuis les lois de décentralisation.
sortir les cartons là.
Arrête. Ma DGF est descendue de 10% chaque année.
C'est parce que vous avez fait exploser la masse salariale.
Qu'est-ce que c'est?
Alors moi, la population française.
Mais il dit n'importe quoi.
Non. Alors là, on va arrêter de raconter n'importe quoi.
Pas tous en même temps. S'il vous plaît, je réponds. On ne comprend pas. Je vais laisser la parole à Ludovic.
S'il vous plaît. Ma masse salariale n'a pas bougé. Elle a été à 100. Son problème, c'est que moi, je touche.
Depuis quand?
Je peux parler.
Laissez terminer, Ludovic.
Donc j'ai 70 euros par habitant, quand certains ont 1000 euros par habitant. Ma dotation globale de fonctionnement n'a pas bouté. J'ai 4800 habitants, je reste à 4800 depuis que j'ai été élu, ça veut dire que mandat. Donc je n'ai rien fait. La DGF, aujourd'hui, les critères
dotation
globale de fonctionnement qui nous permet de travailler à prendre des policiers municipaux, donc qui coûtent très cher, mais tout ça, on ne peut plus le faire. Elle a raison. On n'a pas les moyens, aujourd'hui, financiers d'assurer, comment dire, une sécurité locale. Ni les informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas les informations sur les délinquants dans notre ville. Est-ce que moi je reçois la liste des délinquants dans ma ville? Jamais. Et c'est vraiment ça la problématique.
Alors la
c'est...
réaction de William T. sur ce sujet et sur la responsabilité, c'est un mot qui est peut-être un peu fort, mais la responsabilité des maires dans ce genre d'affaires dont on est en train de parler, qui est un drame, homme est mort.
On a toujours le même sujet. Quand on est à Paris, Anne Hidalgo dit que c'est la faute de Gérald Darmanin. Quand on est à Lyon, Grégory Doucet dit que c'est la faute de Gérald Darmanin, etc. Et si par cas les gens prenaient leurs propres responsabilités, moi je suis d'accord avec Jean-Christophe Couilly. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir donner qui est responsable ou pas. Quand vous prenez les acteurs locaux, pourquoi est-ce que l'État a fait baisser ce que Ludovic Toro appelle la dotation globale de fonctionnement? C'est parce qu'ils ont fait exploser la masse salariale. Alors que la population française a augmenté de 2 ou 3 millions d'habitants, eux, ils ont, les collectivités territoriales, toutes confondues, ont embauché plus d'un million de fonctionnaires en 20 ans. Un million de fonctionnaires, qu'est-ce que vous voulez en faire de ce million de fonctionnaires? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensuite, après, ils ont toujours la même chose. Ça veut dire qu'en fait, si par cas, ils demandent de l'argent à l'État, c'est qui va payer? C'est-à-dire que c'est les autres habitants. C'est-à-dire que c'est vous. C'est vous qui allez payer pour leur ville à eux. Et c'est pas aux Français de payer pour leur ville à eux. Et il y a un troisième élément sur lequel je joue quand ils disent il faut augmenter les moyens des mairies. Je pense que c'est à eux de mettre en place des politiques attractives pour faire en sorte qu'ils aient plus de recettes, tout simplement. C'est pas à l'État de le faire.
Benjamin Cauchy, c'est qu'aujourd'hui, les maires, quels que soient d'ailleurs les dossiers, les affaires, les sujets, se sentent de plus en plus esselés. De plus en plus abandonné aujourd'hui. C'est le parent pauvre de la politique, le maire, désormais.
J'ai même envie de dire que c'est le dindon de la farce.
Oui.
C'est le dindon de la farce. On finit juste sur cette dotation globale de fonctionnement. Ouais. C'est l'argent que l'État donne aux collectivités locales pour assumer un certain nombre de services au regard de critères sociaux, nombre de population, nombre de logements sociaux, nombre d'établissements scolaires ou d'établissements publics présents sur la commune. Grosso modo, lorsque vous êtes dans une commune de banlieue, vous percevez 2 fois plus de DGF par habitant que lorsque vous êtes dans une commune rurale.
Ouais.
Je ferme cette parenthèse parce que cela veut dire effectivement que les maires ont perdu une souveraineté, j'ai envie de dire, financière, puisqu'ils ne peuvent pas lever l'impôt, ils ne peuvent plus bénéficier de la taxe d'habitation, ils n'ont plus la souveraineté foncière, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus déterminer librement comment ils vont aménager. Et donc, je connais des communes qui voudraient s'étendre, mais la communauté d'agglo et d'autres structures d'aménagement du territoire leur imposent 25% de logements sociaux et d'aller mettre 300 logements sociaux dans une commune de 4000 habitants, à 15 km de
Toulouse.
Je ne donnerai pas le nom. Tout ça pour vous dire que les maires, on peut les acculer de tout. On peut leur donner effectivement ce manque de responsabilité vis-à-vis de la sécurité et responsabilité à eux d'avoir une véritable police municipale et de mettre les moyens là-dessus. Là-dessus, ils sont responsables. Pour le reste, aujourd'hui, ils sont pieds et moins liés.
Dans ce genre d'affaires, Ludovic Toro, est-ce que ce sont les maires qui ont une responsabilité? Est-ce que ce sont les maires qui doivent assurer la sécurité de la population?
Et je reviens, je n'ai pas augmenté depuis 8 ans le nombre de personnes. Moi, quand j'engage quelqu'un, je le prends pour 3 ans parce que j'ai les aides de l'État.
Je fais un commentaire.
Oui, mais moi, je suis maire. Je peux quand même parler de ma ville.
Vous parlez de sécurité ou quoi de
sécurité, je vais vous expliquer. J'ai 3 policiers municipaux. Je ne peux pas en payer un autre. Mais je vais vous donner même quelque chose.
Il faut couper quelque part.
Alors
policier.
Non, mais pourquoi quoi? Je suis en train de fermer mon école de musique. Tu me parles de quoi? Je touche 70 euros.
C'est pour ça que la flûte est sur le plateau.
Je vais vous expliquer quelque chose. La dotation globale de fonctionnement, c'est un vrai scandale. En Seine-Saint-Denis, ma ville, moi, je touche 70 euros par habitant. La moyenne est à 210 euros. Ça veut dire que cette DGF, c'est n'importe quoi. Ça donne à l'échec et pas à la réussite. Et ce qui prouve que ma ville, aujourd'hui, j'ai plus d'argent pour boucher les trous. Maintenant, attendez. Sur ce point-là, c'est une défaillance de l'État. Il y a un qu'on a mis qui est fou et l'autre, c'est un délinquant. C'est quand même bizarre que ce fou, dès qu'on l'a chopé, on l'a mis en psychiatrie. On ne pouvait pas le mettre avant. C'est-à-dire qu'on l'a pris, il est parti en psychiatrie directe.
Je vais laisser le mot de la conclusion justement à Jean-Christophe Couvy. On a le sentiment parfois que toutes les entités, la police, les maires, les politiques, le gouvernement, la justice, n'arrivent pas à travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a cette cacophonie et qu'on en arrive à des débats parfois qui sont insolubles, Jean-Christophe Couvy.
C'est pas pour toi, je parle, tu fais un comment?
Oui, bah effectivement, je pense que tout à l'heure, c'est Gérard Lanvin qui dit qu'il fait un taulier. Je pense qu'il faut vraiment un taulier, mais pour ces problèmes-là aussi. C'est-à-dire qu'il faut une vraie coordination de tous les services. Et c'est pas uniquement de dire il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on se voit autour d'un bon petit repas et qu'on parle un petit peu. Non, il faut vraiment qu'on travaille. Et c'est, je veux dire, les citoyens français demandent ça, demandent de la présence du service public. On a déserté le service public. On parle des hôpitaux psychiatriques, mais parlons-en des hôpitaux psychiatriques. Quand on gratte un petit peu, on a tous dans nos connaissances des infirmières qui nous disent qu'on ferme des lits dans les hôpitaux psychiatriques avec des gens très dangereux. On leur donne juste leur posologie. Tout ça pour gagner des lits, j'allais dire, dans les urgences. Et donc, en fait, on fait des choix.
Bien
et ces gens-là qui sont remis dehors, ce sont des fauves, ce sont des gens dangereux. Et nous, policiers, ben, on les croise, on sait qu'il va y avoir une histoire derrière à un moment donné. On attire justement l'attention, on lance des fusées de détresse, sauf que derrière, on n'a aucun écho. Et effectivement, il faut attendre des drames comme ça pour poser le sujet. Mais un jour ou l'autre, je vous dis, il faut changer de logiciel et vraiment s'attaquer vraiment à tous ces problèmes-là. Et c'est les problèmes de coordination des moyens.
Merci Jean-Christophe Couvy de nous avoir accompagnés. On marque une pause très rapidement. L'actualité et d'autres débats à venir avec nos invités. 90 minutes info, à tout de suite. D'autres débats à venir dans 90 minutes info sur CNews. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
Les salariés devront-ils payer pour leur formation professionnelle? Un amendement a été déposé par la majorité sur son projet de budget de l'État pour 2023. Il prévoit une participation financière des travailleurs désireux de faire une formation. Un décret en Conseil d'État devra en préciser les modalités. L'une des vice-présidentes du Parlement inculpée et écrouée, la grecque Eva Kaili, est soupçonnée de corruption. Avec 4 autres personnes, elle a été arrêtée à Bruxelles vendredi. Des perquisitions ont eu lieu au domicile d'un second eurodéputé. Et puis Odessa et le sud de l'Ukraine privés d'électricité. Environ 1,5 million d'habitants ont été impactés dès hier soir à la suite de frappes russes. Elles auraient été menées à l'aide de drones kamikazes iraniens, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien affirme que 10 des 15 drones ont été interceptés.
La politique encore dans nos débats. Ce soir, le parti Les Républicains aura un nouveau président, Éric Ciotti ou Bruno Retailleau, héritera à l'issue du congrès de LR d'un parti menacé par les divisions. Mais il y a beaucoup d'autres enjeux. Les explications d'Élodie Huchard du service politique de CNews.
C'est le jour J pour les Républicains. À 18h15, on connaîtra le nouveau président du parti, Éric Ciotti ou Bruno Retailleau. On était à 14h à 56% de participation contre 60 la semaine d'avant. On peut expliquer cette petite baisse sans doute par le fait que certains qui ont soutenu Aurélien Pradié au premier tour se soient démobilisés de l'élection. Aurélien Pradié, lui, n'a pas pris position. Ses soutiens sont allés majoritairement du côté d'Éric Ciotti, sauf Xavier Bertrand qui, lui, soutient Bruno Retailleau. Ça instaure une sorte de match pour la présidentielle. Avec Éric Ciotti, on soutiendrait Laurent Wauquiez. Avec Bruno Retailleau, on soutiendrait Xavier Bertrand, même si évidemment les choses ne sont pas si simples que ça. Le but, ça sera d'avoir quand même un score sans appel, parce qu'avec l'article notamment de Libération qui accuse la Fédération des Alpes-Maritimes, par exemple, d'avoir fait voter des personnes âgées dans les maisons de retraite, un score trop serré risque de produire de nouveau une guerre, comme on l'avait connu entre Jean-François Copé et François Fillon. Alors le déroulé de la soirée, à 18h15, annonce des résultats par Annie Genevard, la présidente par intérim du mouvement. Le perdant viendra faire une déclaration quasiment dans la foulée, et le gagnant s'exprimera aux alentours des 21h, et puis ensuite il va falloir plancher une nouvelle direction. Est-ce qu'il faut changer de nom? Est-ce qu'il faut changer de locaux? Quelle alliance ou pas avec Emmanuel Macron? Et puis surtout, il va falloir voir à plus ou moins long terme, est-ce que l'élection, par exemple, d'Éric Ciotti, jugée parfois clivant, va faire que certains députés vont se rapprocher tranquillement de la majorité? Est-ce que Édouard Philippe va pouvoir profiter de ça pour avoir un groupe au Sénat? On le voit, il y a donc un enjeu, notamment pour la majorité avec cette élection, de savoir si la majorité va se retrouver peut-être renforcée par cette élection.
Élodie Huchard, donc, du service politique de CNews, c'est donc choisir un nouveau visage que vont devoir faire les adhérents des Républicains, sans savoir encore d'ailleurs si ce nouveau visage, William T, va accompagner une renaissance ou un délitement du parti. Il y a des incertitudes.
Tout dépend de la stratégie. Vous avez 3 types de stratégies pour sauver les Républicains, ou en tout cas pour essayer de reconstruire quelque chose. La première, c'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy, c'est de faire alliance avec Macron. Au moins, vous avez un Premier ministre de droite. Macron ne se représente pas. Vous prenez la succession de Macron et vous captez l'électorat de Macron en vue de mener la suite de Macron. Et vous revenez à ce qu'on appelait à l'époque l'UMP sous l'égide d'Alain Juppé. La deuxième stratégie, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy encore lui-même en 2007, c'est d'aller manger, plumer la volaille du Front National et d'aller à droite toute pour aller récupérer les électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Donc là, vous faites un tournant complet. Vous dites Macron, c'est le mal absolu, c'est le président le plus nul de l'histoire. Et donc du coup, on va mener une politique complètement différente de ce qu'a mené Emmanuel Macron. Et après, vous avez la troisième stratégie, qui est la plus nulle. Et c'est celle qu'ils empruntent en fait actuellement, c'est-à-dire que vous mettez au milieu, vous choisissez aucun des deux camps et en fait vous plumez la volaille des deux côtés. C'est ce qui s'est passé pour Valérie Pécresse qui a perdu des voix d'un côté chez Zemmour et Le Pen et l'autre côté chez Macron, parce qu'en fait vous choisissez aucun des camps et les électeurs partent des deux côtés quand vous n'êtes pas assez fort.
Ça fait 4,78 à la présidentielle.
Ça fait 4,78 et en fait moi j'appelle ça la théorie Modem. C'était à l'époque, LR est dans le même piège que François Bayrou à l'époque entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Vous êtes au centre, vous n'avez aucun des deux camps avec une polarisation qui est instaurée par la Ve République. Et tant que vous ne choisissez pas un camp, vous êtes en incapacité totale de voir construire. Et je pense que les sujets essentiels, c'est celui de la stratégie. Et le deuxième sujet clé, c'est celui de l'incarnation. C'est-à-dire que lorsque vous regardiez, on a fait ça nous, au niveau du think tank il y a quelques temps, vous regardiez à l'époque le grand RPR, vous aviez des débats entre Balladur, Jacques Chirac, Philippe Séguin, Charles Pasqua, avec un art oratoire incroyable, une vision, une connaissance des sujets fantastiques. Même lors de la primaire de 2016, vous aviez François Fillon, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et là, vous regardiez le dernier congrès, vous regardez les types qui étaient là et vous dites qu'est-ce qui s'est passé, c'est le symbole.
Il n'y a plus de personnalité politique forte, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Il faut Je pense que le meilleur, celui qui a le plus de capacité dans tout ça, c'est Laurent Wauquiez. Il faut surtout, chez eux, faire émerger de nouveaux talents parce que ce n'est pas avec l'effectif actuel que vous allez gagner. C'est comme si, on parlait tout à l'heure du foot, c'est comme si votre effectif, vous aviez un seul talent et que des plots à côté. Et ben, il vous faut des joueurs de complément pour soutenir la star et c'est ce qui leur manque en plus d'une stratégie.
Ce n'est pas le cas de l'équipe de France, évidemment.
Ce n'est pas le cas de l'équipe de France.
Pour faire une digression avec Mbappé et les autres joueurs. On est d'accord, William T. Pour en revenir au parti les Républicains, Benjamin Cauchy, est-ce que ce parti, pour vous, a encore du poids? Oui. Aujourd'hui, c'est un parti historique, en effet, mais est-ce qu'il compte encore vraiment? Alors, sur l'échiquier politique.
Je ne sais pas si Wauquiez sera le Giroud de la compétition 2027.
Filons la métaphore.
Filons la métaphore. En tout cas, les Républicains ont besoin d'un Didier Deschamps aujourd'hui. Et s'il y a un défaut d'incarnation, c'est au moins un entraîneur, quelqu'un qui soit capable de rassembler la famille entre les crypto-gaullistes, ceux qui s'amourachent d'un strapantin en direction de la Macronie, ou ceux finalement qui regrettent d'avoir laissé Éric Zemmour et Marine Le Pen préempter les questions régaliennes. Moi je pense que les Républicains ont un avenir pour le coup. Ils ont un avenir pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, à droite de l'échiquier d'Emmanuel Macron, il y a soit Reconquête qui a un positionnement de plus en plus identitaire et qui donc rétrécit l'offre politique, et un Rassemblement National qui, qu'on le veuille ou non, a un programme plutôt de gauche économiquement. Et donc, il y a une attente de la part des Français d'avoir, une proposition économique de droite, libérale, mais également une proposition de droite conservatrice. Conservatrice ne veut pas dire s'arrêter, mais ça veut dire avancer doucement. Et donc, je crois que dans cette, balance à la fois du libéralisme économique, mais aussi retrouver un peu d'ordre et de rigueur dans notre pays, je pense que les Républicains ont une carte à jouer. Et pour le coup, moi, je pense que Ciotti s'est trompé en voulant, lier sa candidature à celle de Laurent Wauquiez, parce que bienheureux sera celui qui pourra dire comment va se passer les élections en 2027. Est-ce qu'elles se passeront d'ailleurs en 2027? Est-ce que Macron pourra finir? Est-ce que Laurent Wauquiez sera encore en capacité d'être, oui ou non,
pourquoi
le candidat?
Macron ne pourrait pas finir?
Pourquoi pas? Enfin, ce que je veux dire, je suis dans une théorie.
Ça pose question quand même.
Qui aurait imaginé le 23 février 2022 que nous serions aujourd'hui dans une guerre en Ukraine avec la moitié des réacteurs fermés et on nous demanderait de mettre des pulls pour passer sur un plateau de télévision?
C'est ce que vous avez fait aujourd'hui pour justifier votre pull.
Exactement. Mais plus sérieusement, c'est très difficile de se projeter sur 2027. Donc le pari est très risqué pour Éric Ciotti de s'engager avec un homme qui, peut-être que dans 4 ans, peut-être que dans 2 ans, il aura la tentation de Venise comme Juppé à l'époque et fera autre chose. Ouais. Donc je trouve ça très dangereux. Alors, et pour le coup, Retailleau, pour moi,
c'est vrai,
est plus dans cet esprit de synthèse.
Ludovic Thoreau, le passé, les élections du président des Républicains ou de l'UMP ou du RPR, ça pouvait passionner l'ensemble de la population. Ouais. Aujourd'hui, franchement, ça se fait pratiquement dans l'indifférence la plus totale.
C'est vrai. Mais n'oublions pas quand même que le nombre d'élus locaux est important. Et les trois principaux, c'est LR, PS et UDI, je vous le rappelle.
Donc vous faites partie.
Et voilà. Et j'allais vous dire, vous me parliez de quelqu'un qui a de la bouteille. Nous avons fait nos élections aussi, l'UDI hier, pour mettre notre président national. Et Hervé Marseille, et tu as qui a de l'humour, qui a de la connaissance. Voilà, je le salue s'il m'écoute aujourd'hui. Donc maintenant, il y a cette possibilité aussi du vrai centre droit. D'accord, qu'est l'UDI, qui est un peu ce qu'on disait. Parce que là, à force d'aller à droite, on a vu un peu l'Italie, il rêve de l'Italie.
Le centre droit, c'est la Macronie, excuse-moi.
Non, c'est pas la Macronie, à part avec moi en tout cas. Non.
Il y a Macron, il y a Philippe.
Non, mais attendez, Attendez, je sors le jaune seulement.
Sortez le jaune.
Attendez, vous me dites que l'UDI, c'est la Macronie parce que les LR, c'est pas la Macronie, mais vous voulez rire.
Le centre droit, c'était la Macronie.
Non, Macron n'a jamais été un centre droit, il n'a jamais rien appliqué, il n'a jamais rien fait. Il ira peut-être gagner mardi la place en finale, il va dire que c'est grâce à lui encore, mais il n'a jamais rien fait. La différence avec nous, c'est qu'on a été au pouvoir, l'UDF à l'époque, et on a fait... Oui, mais je suis désolé de le dire, qu'aujourd'hui, on a fait les choses. Celui-là n'est pas de centre droit, c'est quelqu'un qui n'est pas un élu local, qui n'a aucune implication locale et qui a créé un parti complètement artificiel. Et vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas le comparer avec des grands partis comme l'UDI, comme les LR et comme les socialistes. Il y a des élus qui gèrent tous les jours des villes, qui gèrent tous les jours des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des conseillers territoriaux. Donc aujourd'hui, les trois partis sont là et sont encore là. Et n'oubliez pas que c'est grâce aux élus locaux qu'on fait avancer la France.
Dernier mot de William T sur ce sujet, parce que j'aimerais rester avec nous sur CNews. On va parler de la chasse qui pourrait être interdite le week-end.
Moi, je peux...
Très intéressant.
Mais faire de la chasse à l'UDI, méfiez-vous.
Non, mais c'est intéressant.
Il n'y a plus grand monde.
Moi, je peux vous balancer des scoops. Au sein du Parti Socialiste et au sein des Républicains, vous avez des maires, des présidents de région qui font tout pour que leur candidat se coule à l'élection nationale pour préserver leur siège. Parce qu'en fait, si leur parti serait au pouvoir, ils auraient plus de chances de perdre les élections locales. C'était le syndrome de François Hollande en 2014 d'élection municipale. Donc ce que dit Ludovic Taureau, c'est l'apparence point fort de LR fait en sorte que, en fait, à chaque fois que vous avez un candidat de LR, et ben, tous les types lui tirent dessus. C'était le cas de Valérie Pécresse, c'était le cas de François Fillon aussi. Parce qu'ils se disent, si par cas on est élu sur ce programme réformateur, libéral, etc., on va se prendre une tôle aux élections locales. Donc il faut surtout qu'ils ne gagnent pas. Et donc ce qui a fait la force de LR est en train de les couler. Et je pense que le sujet essentiel pour LR, c'est qu'en fait, ils sont devenus un parti girondin, UDF, isan. Alors que le sujet pour eux, c'est de devenir le parti national populaire bonapartiste qu'ils étaient à l'époque du RPR, de Sarkozy, de Jacques Chirac, etc. Et tant qu'ils ne retrouveront pas ça, ils peuvent dire adieu au pouvoir national, hormis s'ils font coalition avec Macron.
Dernier sujet dans l'actualité de 90 minutes à Info sur CNews, faut-il interdire la chasse le week-end? C'est ce que propose le député écologiste d'Indre-et-Loire, Charles Fournier, qui a déposé une proposition de loi visant à encadrer la pratique jour chassé et jour sans chasse le week-end, mais aussi les jours fériés et les vacances scolaires. Reportage Jérôme Rapnus.
Ce samedi matin, ce petit groupe de chasseurs s'est donné rendez-vous pour une battue. Avant de commencer, le responsable rappelle les consignes de sécurité.
On n'est pas nombreux, on fait attention. Il est interdit de se déplacer sur toutes les routes communales, même départementales, avec une arme, même vide.
Les élus écologistes voudraient les empêcher de chasser le week-end, pendant les vacances et les jours fériés. Une aberration pour eux, car il ne resterait plus grand monde de disponible.
Je pourrais plus chasser, non. C'est embêtant. J'ai que mes week-ends, oui, parce que je débauche tard, j'embauche tôt. Puis, moi, je trouve ça stupide.
La semaine, on travaille, donc on ne peut pas chasser la semaine. Donc le week-end, le sanglier, ou que ce soit le sanglier, le chevreuil, il n'arrête pas, lui. Donc si on les laisse tranquilles, ils vont surpeupler et après, ils vont faire d'énormes dégâts.
Car ils tiennent à le rappeler. Les chasseurs ont un rôle de régulation de la faune sauvage qui n'hésite pas à sortir des bois pour s'attaquer aux cultures.
Surtout quand les cultures sont style le maïs, tout ça, quand tout est en fleurs et tout, les sangliers viennent là, oui, à ce moment-là, on commence les battues par là. Quand il y a le raisin aussi, on a des propriétaires qui viennent nous voir en disant qu'il y a des sangliers qui viennent détruire un petit peu les cultures viticoles.
Les accidents de chasse sont en très forte diminution depuis une vingtaine d'années. Moins de 100 recensés en 2022. Avec 8 décès, souvent dus à des manquements aux règles de sécurité.
Oui, alors que ce projet de loi va être débattu pour mieux encadrer cette pratique et protéger, donc, c'est ce que dit le projet en tout cas, les riverains, les promeneurs, les randonneurs, les cueilleurs, les cyclistes également. Mais ça a été dit dans le sujet, Benjamin Cauchy, le chevreuil ne prend pas de vacances. Alors non. Est-ce que c'est possible de chasser uniquement en semaine?
Ça, c'est de la démagogie de bobo urbain. J'attends la future proposition de loi pour interdire aux restaurants d'ouvrir aux heures de repas. Plus sérieusement, ils nous ont fait le Tour de France, le sapin de Noël, ils nous ont fait les burkas dans les piscines, on a eu droit à la corrida il y a une quinzaine de jours, et donc là arrive le sujet de la chasse, tout ce qu'il y a de non essentiel. Finalement, on croyait que les sujets essentiels et non essentiels, c'est Macron qui les avait tranchés, finalement c'est la NUPES qui les déroule. C'est omettre que les chasseurs sont des actifs, ce ne sont pas des cassos qui picolent toute la journée et qui auraient le temps d'aller boire des ricards la semaine et d'aller tuer des animaux par plaisir. Non, ce sont des gens responsables qui protègent la faune et la flore. Protéger la faune, c'est aussi réguler les quantités d'animaux. Donc, ils font partie prenante de la maîtrise de notre écosystème. Donc, c'est méconnaître l'environnement, la nature, que d'aller contraindre les chasseurs à les limiter sur un calendrier. Je crois qu'il y a des solutions. Les chasses sont principalement faites sur des domaines privés à hauteur de plus de 70%. Donc, je crois sincèrement que là, on est encore en train d'utiliser une arme idéologique massive pour éviter de parler des vrais sujets en France. Mais ça, pour le coup, ça, c'est...
Ou pour faire disparaître la chasse à plus ou moins long terme.
Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a l'idéologie qui est faite de déstructurer tout ce qui peut faire unité dans notre pays. Le drapeau français, toutes nos traditions locales. Ça va être la crèche, ça va être la chasse, ça va être la corrida. Vous avez, au fur et à mesure des semaines, vous savez, Boris Vian, l'écume des jours, là, ça s'enchaîne comme ça à la file. Vous avez tous les sujets qui ont pour objectif de déconstruire notre pays. Et puis, deuxièmement, c'est fragiliser et salir la ruralité, parce que c'est là, clairement, où les NUPES ne font pas de voix.
Oui, et puis, même d'un point de vue pratique, Ludovic Toro, c'est à se demander si c'est même réalisable, si c'est applicable. C'est ridicule. Ne chasser que la semaine. Vous ne pourrez jouer au foot ou faire de l'escrime uniquement en semaine.
Oui, mais c'est extrême. Est-ce qu'ils pensent que tous les chasseurs, ce sont tous des retraités? Je ne crois pas.
Il y a eu,
en fait, je crois, en 7 ans, plus 40% de chasseurs. Oui. Maintenant, je vais vous dire une chose dans ma ville. D'accord, qu'une ville de Seine-Saint-Denis, qui est très environnante. À Coubron. J'ai des sangliers tout le temps. Et on a eu des accidents de voiture avec les sangliers. Les sangliers descendent et vont dans les pavillons. Heureusement qu'il y a des chasseurs. Mais ils ne chassent pas comme ça. C'est prévu, on bloque tout et on organise. Mais s'il n'y avait pas assez de régulation sur les sangliers, moi j'en aurais partout dans ma ville. Et ça crée des accidents.
Les champs de maïs seraient décimés partout.
Mais c'est clair. Donc si vous voulez, c'est une régulation. Et puis attends, qui peut imaginer que dans l'histoire du monde, on va arrêter la chasse? Que les gilets verts. Fallait pas rêver, fallait pas garder le Petit Prince, Saint-Exupéry. Faut plus rien faire, faut plus voler, faut plus chasser. Bientôt, faudra plus pêcher. Et on fait quoi? On reste tous chez nous, on fait plus rien. Moi, j'apprends aux enfants de Coubron à pêcher. C'est important. Je leur apprends pas à chasser, ils sont trop jeunes. Mais je veux dire que la chasse, pour moi, est un moyen de régulation et de protéger mes populations, très clairement, avec des règles. Il y a moins d'accidents qu'avant. Chaque année, il y a moins d'accidents. Bien sûr, il y a des accidents comme partout. Les accidents de la vie, il y en a partout. Mais ce sont pas des tueurs, les chasseurs. Arrêtez de leur donner cette image-là.
Peut-on y voir, William T, une stratégie de vouloir faire disparaître la pratique de la chasse, de la tradition également? Et il y a peut-être une comparaison à faire avec le débat qu'on avait sur la corrida il y a quelques semaines maintenant.
Il n'y a pas que la chasse, il y a ce que vous avez dit et ce que Benjamin Cauchier a dit aussi. Il y a tout l'ensemble des traditions et ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui incarne le monde rural. En fait, c'est un clivage entre monde métropolitain et monde rural. C'est en fait, et c'est ce qui s'est passé également lors de la crise des Gilets jaunes, c'est que vous avez une partie des élites françaises qui veulent appliquer et dupliquer le mode de vie que, disons, dans les grandes métropoles, dans le monde rural. Seulement, ce qui se passe, c'est que le monde rural, on ne veut pas. Et donc, du coup, il vient se révolter. Se révolter dans des ronds-points, et puis si largement. Parce qu'en fait, ce mode de vie est minoritaire. Il correspond à un ensemble de bobos parisiens, en gros, de Saint-Germain-des-Prés. Et on ne peut pas dupliquer ce modèle de vie. Et ce qui est amusant, c'est qu'eux prônent la compréhension, le vivre ensemble, etc. Mais ils exècrent tout ce qui est différent d'eux. Et c'est là le point essentiel. Je pense... Moi, je n'ai pas d'idée particulière sur la question de la chasse. Je ne sais pas s'il faut maintenir ou pas, s'il faut encadrer. Je pense que ça se défend, les deux points de vue se défendent. Je pense que, par contre, ce qui est essentiel, c'est que si on veut garder ce qui fait la France et ce qui fait la spécificité française, c'est que la France est multiple, elle a différents horizons. On ne peut pas avoir uniquement la France des métropoles, la France périphérique et la France des territoires ruraux. Je pense qu'il faut garder tout cet ensemble et faire en sorte que chacun se sente maître chez soi et puisse vivre en parfaite harmonie.
Soyons inclusifs avec les chasseurs.
Voilà.
Oui.
Pour terminer, 5 minutes encore dans 90 minutes info, un dernier sujet que je vais vous soumettre, pour ou contre le futur centre d'accueil de migrants à Saint-Brévin-les-Pins. Deux manifestations ont eu lieu d'ailleurs aujourd'hui dans ce département de Loire-Atlantique, deux rassemblements avec des partisans, des opposants, au total 200 à 300 personnes, et des réactions que l'on écoute tout de suite.
Il faut prouver qu'il y a encore des gens qui résistent et c'est important d'être là justement pour éviter en fait que la France devienne la poubelle des nations.
Moi, ma crainte, c'est l'insécurité. L'insécurité à tout niveau, hein, les enfants, les personnes âgées, les femmes.
Il y a simplement quelques personnes, riverains de la Pierre Attelée, qui n'ont pas envie de voir un centre de migrants à côté de chez eux, au prétexte que les migrants sont dangereux. Mais on a combien de migrants qui sont passés ici sans qu'on ait eu aucun incident? C'est quand même incroyable. Ce sont que quelques personnes, il ne faut pas l'oublier.
Je pense qu'il y a eu de tout temps des gens qui ont besoin de trouver de l'hébergement quelque part parce qu'ils vivaient dans des conditions insupportables et que c'est inhumain de dire qu'on n'en veut pas.
Donc des réactions partagées, c'est vrai. William T., y a-t-il des raisons d'être inquiet? Apparemment, ce centre de migrants serait à côté d'une école aussi, ce qui pourrait inquiéter certaines personnes au sein de la population. Mais en même temps, cela permet aussi d'éviter les camps sauvages, comme on en avait vu un dans le 18e arrondissement de Paris, pour accueillir les migrants.
Je pense que c'est toujours le même sujet. Personne n'en veut. Oui. Personne n'en veut, c'est comme les salles de chevaux.
On peut toujours se poser la question, voilà. Pourquoi sont-ils là? Comment ont-ils passé la frontière? C'est vrai, mais une fois qu'ils sont là, que fait-on?
Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé de construire un centre. On ne peut pas les foutre n'importe où. La France a quand même une tradition. La difficulté, c'est qu'elle, c'est comme les éoliennes, c'est comme les salles de shoot. Personne n'en veut. Donc évidemment, chacun va essayer de se refiler la patate. Moi, je pense que le point essentiel, ce n'est pas celui-ci. C'est comment on a fait en sorte qu'ils arrivent sur le territoire français. Et je pense que le sujet essentiel, c'est une fois qu'on s'est occupé de ces personnes-là, qu'on a construit des centres de migrants, etc., c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de construction de nouveaux centres de migrants. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de faire, de construire ce que j'appelle moi des hotspots. Ça veut dire que vous mettez un principe qui est clair. Si vous venez sur le territoire français, vous avez le droit ni au titre de séjour ni à la naturalisation, et vous êtes obligé de passer soit par une ambassade à l'étranger quand le pays est dit sûr, soit vous allez dans un pays à proximité. Comme ça, ça nous évite d'avoir des points comme à Calais, etc., et de délocaliser la question de la gestion des centres de migrants. Parce que pourquoi? Parce que personne n'en veut, tout simplement. Aujourd'hui, je dis, les gens savent que la plupart des migrants, une grande majorité, essayent de bien se comporter. Mais comme vous avez une minorité qui vient foutre le bordel, eh ben, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur dégradation de conditions de vie et pour la tranquillité du quotidien. Et donc, du coup, personne n'en veut parce que tout le monde a peur que ça ressemble à un nouveau Port de la Chapelle, etc.
Et ça, Benjamin Cauchy, c'est de la responsabilité du gouvernement ou des communes? Puisque Anne Hidalgo, par rapport à ce qui s'est passé dans le 18e, vous savez, ce camp de migrants sauvages qui s'est installé sous le métro, sous le pont du métro,
responsable,
que c'est le gouvernement? Bah oui, là c'est la commune, les gens de Saint-Brévin-les-Pins, la population manifeste, mais est-ce que c'est au maire d'intervenir? Est-ce que c'est à l'État directement de prendre une décision?
Je ferai le distinguo entre la responsabilité en termes de pouvoir et de prise de décision, puis la responsabilité financière. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, c'est l'État qui est responsable de la politique migratoire. Et donc, forcément, avec la loi immigration qui doit projeter les demandeurs d'asile dans les campagnes, finalement, ces centres de rétention administrative qu'on leur voit pousser un peu partout. Donc là, dans la commune dont vous venez de parler, dans le Loire-Atlantique, je pense à la commune de Saint-Lys, à côté de Toulouse, en Haute-Garonne, qui subit également les mêmes problèmes avec des craintes dans la population. Clairement, sur ce sujet-là, Gérald Darmanin et le gouvernement ont leur responsabilité. Mais après, la mairie de Paris, quand vous savez qu'elle verse des centaines de milliers d'euros à SOS Méditerranée et qu'après, elle va venir pleurer parce qu'il y a des migrants dans sa commune, moi, ça me fait juste rire. Donc une idée, parce qu'il faut aussi proposer, quand on vient sur ce plateau, une idée. Vous avez la liste disponible de toutes les communes qui ont financé SOS Méditerranée. J'invite Gérald Darmanin et le gouvernement à se pencher sur cette liste et d'aller installer des centres de rétention administrative sur les communes qui soutiennent cette démarche migratoire. Il y a la commune de l'Union à côté.
Couberon, sur cette liste.
Eh bien, Couberon a un CADA. Eh oui.
Qu'est-ce que c'est un CADA?
Bah, c'est ça, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est
voilà.
Ça. C'est un CADA depuis 20 ans, qui pose pas de problème. Je pense que beaucoup de Couberonnais ne savent même pas qu'il y a un CADA chez moi parce qu'il est là depuis 20 ans. Et il y a des règles. Hein. Quand ils arrivent, ils signent quelque chose et sinon, ils sont vraiment virés du CADA. Maintenant, la problématique, vous l'avez dit, c'est qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais maintenant, il faut bloquer. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui sont là, OK, on a fait des erreurs. Maintenant, il faut bloquer, sinon on ne pourra pas faire des CADA dans toutes les villes parce qu'il y aura des manifestations, il y aura de la violence.
On ne peut pas construire des cendres tout le temps en permanence.
Non, non.
Ça coûte cher.
C'est pas la solution.
Ça coûte cher.
Et 3 millions 4. Hein.
Non, on n'a pas les moyens de construire des logements sociaux et on va construire
3,4 millions le CADA qui va être construit là.
Je crois que c'est 400 euros par migrant par jour.
Voilà.
C'est une somme. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous les trois dans un instant.
Merci à vous.
Sur CNews. Punchline avec Patrice Boisfer. Et évidemment, vous pouvez revoir, je le dis à chaque fois, vous pouvez revoir cette magnifique émission sur cnews.fr.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.